franceinter.fr.
Aujourd'hui dans l'espace, un rendez-vous avec Cérès, une planète naine.
5, 4, 3, 2, main engine start. 1, 0, and lift off of the Delta II rocket with Dawn.
Nous l'avons lancée en 2007 et elle a voyagé plus de 7 ans pour atteindre Cérès. À la fin de cette semaine, elle sera en orbite et ce sera la première mission à atteindre une planète naine.
Voilà, ils savent faire à la NASA. C'était la voix de Bob Mays le 2 mars dernier, le manager de ce projet Dawn, la sonde donc Dawn, qui est en ce moment même en train d'accrocher l'orbite de la planète naine Cérès, ce gros astéroïde qui est situé entre Mars et Jupiter et qui pourrait nous en dire long, en tout cas on l'espère, sur notre système solaire. Benoît Carry, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, à l'origine de découvertes importantes justement autour de Cérès. Et puis Philippe Hénarejos, le rédacteur en chef de Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Benoît Carry, Cérès est passé donc par tous les noms depuis sa découverte en 1801, on l'a d'abord classée parmi les planètes, puis elle est devenue un astéroïde. Maintenant, c'est une planète naine. Certains ont même parlé d'une comète. Alors, c'est quoi cet objet exactement ?
C'est intéressant. Je dirais, Cérès, en fait, est un petit peu le chaînon manquant entre les petites briques de construction du système solaire que sont les astéroïdes et puis une planète comme la nôtre, comme la Terre, qui est formée, qui est là depuis 4 milliards d'années. Donc, c'est en cela que Cérès est intéressant, parce que c'est un peu un arrêt sur image au moment de la construction d'une planète.
Ouais.
Et s'il est passé par tous les noms, c'est bien pour ça. Au début, quand on l'a découvert, il était tout seul, c'était une planète. On en a trouvé plein, c'est devenu astéroïde. Ensuite, planète naine, bon, c'était justement pour noter un peu cette particularité.
Ouais.
Et maintenant qu'on a découvert des geysers de vapeur d'eau, il y a une émission de gaz, et ça, c'est typique des comètes. Donc, effectivement, Cérès, il est tout.
C'est une sorte de melting pot. En fait. Il y a tout sur cet objet. Hein. C'est absolument incroyable. Si on parle d'astéroïdes, il fait vraiment partie des gros astéroïdes dans le système solaire.
Hein. C'est le plus gros astéroïde.
Voilà.
Il fait 1000 km de diamètre, à peu près.
D'accord.
Et c'est effectivement le plus gros entre Mars et Jupiter.
Voilà. Est-ce que vous pouvez tout de suite rassurer Nathalie Dessay qui craignait que cet astéroïde ne vienne frôler notre planète cet après-midi? Non, c'est pas ça la une. Hein.
Non, c'est pas du tout ça la une. Il va pas nous tomber dessus. Celui-là, il va rester entre Mars et Jupiter. Pendant toujours.
Dans sa petite ceinture, en fait.
Dans sa petite ceinture.
Il est bien. Philippe Hénarejos, on aura donc la confirmation dans les heures à venir de la réussite de la satellisation de la sonde Dawn. Qu'est-ce qu'elle va chercher donc autour de ce gros caillou, 12 fois plus petit que la Terre ?
Elle va chercher à voir si c'est un corps rocheux, comme on l'a toujours cru depuis sa découverte, ou si c'est un corps un peu hybride à mi-chemin. On parlait tout à l'heure de, est-ce que c'est une comète ? Est-ce que c'est un astéroïde ? Est-ce que c'est un corps hybride entre les comètes et les astéroïdes ? Il semblerait que oui, puisque tout à l'heure, Benoît Carry disait « on a découvert des geysers ». Mais c'est lui qui a découvert les geysers,
exactement.
Faut le rappeler, c'était il y a un peu plus d'un an, avec le satellite Herschel. Et donc, ces geysers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de l'eau, alors sans doute sous forme de glace, parce que Cérès est trop petit pour qu'il y ait une atmosphère avec une température agréable, pour qu'il puisse y avoir des lacs et des choses comme ça. Encore que certains modèles d'astronomes disent que peut-être à l'intérieur de Cérès, sous une couche de glace, il y a peut-être de l'eau liquide. Donc, on est très en haleine, parce que la sonde se satellite en ce moment, mais depuis quelques temps déjà, depuis quelques semaines, elle s'en approche, elle prend des photos. Elle a pris les meilleures photos jamais obtenues, et sur l'une de ces photos, il y a quand même, au cœur d'un cratère assez gros, un cratère d'impact, il y a deux points blancs, énormes, étincelants.
Qui ont fait beaucoup parler sur les réseaux ces derniers jours.
On se demande ce que c'est. Évidemment, on croit que ça peut être de la glace, mais
Benoît Carry, il a la réponse.
Nous en dire
et ça, c'est le scoop de la tête au carré, parce que vous allez nous dire ce que sont ces deux tâches qui font parler tout le net du monde entier, vraiment.
C'est une base spatiale alien.
Voilà.
Non, ça je ne sais pas. Alors effectivement, donc, comme disait Philippe, depuis janvier, on a des images à très haute résolution de la surface. Et on avait quand même déjà réussi, depuis le début des années 2000, à prendre des images depuis la Terre, en utilisant les gros télescopes au sol et le télescope spatial Hubble. Et on avait vu qu'à la surface, bon, il y avait des taches sombres et claires, qui ressemblaient à des cratères. Et on avait effectivement identifié un endroit, une grande tache sombre, qui faisait à peu près 200 km de diamètre, avec au centre un point brillant, sans pouvoir identifier ce que c'était. Or, quelques années plus tard, quand Herschel, donc quand nous avons fait les mesures avec Herschel et que nous avons détecté la vapeur d'eau, nous avons réussi à identifier la source de ces jets de vapeur qui était exactement le même cratère avec le point blanc, qui correspond à celui avec les petites taches blanches vues par la sonde.
Alors, la conclusion.
Alors, la conclusion.
Ce sont les geysers ou pas ?
Alors, c'est le même endroit que les geysers. Maintenant, d'où vient cette glace ? Est-ce que c'est une comète qui est tombée sur Cérès et qui a déposé un gros tas de neige qui, petit à petit, se sublime ? Ou alors, il y avait de la glace en sous-sol et puis ben, ça fait vraiment geyser, c'est-à-dire qu'elle remonte à la surface et elle est éjectée, il y a du dépôt sur le bord. Ça, on ne sait pas encore. Il va falloir attendre que la mission se déroule et étudie plus en détail cette région.
Vous, votre hypothèse, c'est quoi, s'il vous plaît, monsieur Carrie?
J'aurais tendance à dire qu'il se passe quelque chose dans le sous-sol.
Mais quoi?
Ben, qu'il y a des réserves de glace dans le sous-sol. Alors, est-ce que c'est des poches très localisées ou quelque chose, façon un manteau de glace sur toute la surface? Je n'en sais rien. Mais il y a d'autres petits indices. En fait, quand on regarde les cratères, pour l'instant, sur les images de la sonde, ce sont des cratères qui ont l'air d'avoir des bords très peu hauts. Alors, normalement, quand on lance un caillou sur un autre caillou, ça fait un gros trou. Et quand on fait ça sur de la glace, après, ça se re-remplit un peu.
Très bien.
Et donc, on a envie d'y croire.
Vous commencez à accumuler les indices, en tout cas. Axel.
Mais toujours sur le même sujet, je crois, Benoît Carrie, que vous avez fait des petits calculs pour l'émission, pour essayer de calculer la quantité d'eau qui s'échappe de Cérès et ce que ça représente à des échelles de temps très longues.
Alors, tout à fait. Donc, avec Herschel, on avait réussi à déterminer qu'il y avait 6 litres d'eau qui étaient émis par Cérès chaque seconde. On peut dire 6 litres par seconde, c'est beaucoup. Effectivement, en jouant un petit peu avec les chiffres, j'ai regardé à l'année, ça fait 200 000 tonnes. On peut dire c'est énorme.
Oui.
Et en fait, le trafic poids lourd en France, c'est 1000 fois plus tous les ans.
Ah, oui.
Donc en fait, vous êtes sur l'autoroute, vous comptez 1000 camions, et là, il y en a un, c'est de l'eau de Cérès.
Bon, Philippe Hénarejos, on attend les premières images, là, justement, de oui, Cérès. Quand est-ce qu'elles vont arriver, là, alors?
Ça, j'attends comme vous que la NASA les relâche, mais je ne me fais pas de soucis. La NASA aime bien diffuser ces images, et dès qu'elle les a, ça ne traîne pas, généralement. Non, sur cette tâche blanche qui nous intrigue tous, quand même, on espère quand même que d'ici quelques temps, la sonde sera capable de prendre des images, par exemple, un petit peu en vue oblique ou à contre-jour, pour éventuellement voir les panaches qui sortent. Cette tache blanche, ce serait une bonne confirmation. Ouais. Ça a déjà été le cas, par exemple, sur Encelade, qui est un satellite de Saturne, où on a vu les geysers, les panaches s'échapper à l'espace. Bon, je crois savoir que Cérès est aujourd'hui même au plus loin du Soleil, donc c'est peut-être la période la moins favorable.
Il est à mi-chemin entre le plus proche du Soleil et le plus loin. Mais on va dire que quand on a découvert les geysers, on s'est rendu compte que quand Cérès était loin du Soleil, il n'émettait pas. Quand il se rapprochait, bah forcément, il se réchauffait un peu, puisque le Soleil chauffe. Et donc, il émettait. Et là, pas de chance pour Dawn, il est sur la partie externe.
Benoît Carrie, comment vous expliquez que donc, cette sonde Dawn et cet objet, donc cette planète naine Cérès, passionne beaucoup moins le public que Rosetta et Chury, dont on a tellement parlé là, ces derniers mois? Parce qu'on est quand même un petit peu dans le même cas de figure, non?
Alors, peut-être qu'ici, en Europe, on a eu plus vent de Churyumov, donc la comète qui, en ce moment, est étudiée par la sonde Rosetta de l'ESA, parce que les services de presse de l'ESA, étant européens, ont plus inondé les médias européens. Et je pense qu'aux États-Unis, ils parlent énormément de Dawn et de Cérès. Ils en ont énormément parlé il y a 2 ans, quand Dawn, la même mission, était autour d'un autre astéroïde, qui s'appelle Vesta. Et dans les médias américains, ils en parlent énormément.
En tout cas, rendez-vous historique aujourd'hui, vendredi, entre la sonde Dawn et la planète naine Cérès, ou astéroïde Cérès, c'est comme on veut.
Ou comète.
Et évidemment, voilà, Benoît Carrie, dès que vous aurez d'autres publications à son sujet, vous viendrez nous en parler dans La Tête au Carré. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Merci également à vous, Philippe Hénarejos. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, toujours dans l'espace d'ailleurs, Curiosity est à l'arrêt. Le robot explorateur de Mars est en arrêt d'urgence depuis mercredi suite à un court-circuit lors d'un forage. L'anomalie a automatiquement entraîné l'arrêt de la manœuvre. Il faudra attendre le résultat des tests menés par la NASA pour connaître la gravité de l'incident et définir quand Curiosity pourra se remettre au travail. La péninsule du Yucatan aurait été ravagée par un énorme tsunami il y a 1500 ans. Une étude mexicaine et américaine a étudié des possibles traces laissées dans la roche par 2 voire 3 vagues géantes. À l'époque, les populations de cette région ont pu être touchés. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes y vivent. Cette découverte, du coup, pourrait amener les scientifiques à repenser la prévention des tsunamis au Mexique. Et puis pour finir, des murs anti-pipi dans le quartier de la Soif à Hambourg. Les habitants agacés par les fêtards qui urinent contre les murs ont trouvé une solution. Ils enduisent les murs souillés d'une peinture spéciale hydrophobe, une particularité physique qui redirige le flux d'urine directement sur les chaussures de l'arroseur. Mais cette peinture, hélas, coûte cher, environ 500 euros pour repeindre 6 mètres carré.